On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci maintenant de conduire cette pensée et de voir cette parole, Seigneur. Demeure dans ce message par ton esprit. Demeure dans nos cœurs, ouvre nos oreilles, les oreilles de nos cœurs aussi, afin qu'on puisse comprendre l'importance de le message ce soir. Et de vivre et appliquer dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Ok. Merci.
Donc 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. À cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Merci beaucoup. Merci. Ce soir, on va parler de notre faiblesse, sa puissance. Donc, la puissance de Dieu reste dans notre faiblesse. Et on va parler un peu plus de ça. En Psaume 102, dans la version seconde, c'est verset 24. Psaume 102. Donc, on va peut-être aborder quelques passages ce soir, plusieurs passages. Le psalmiste n'est pas connu, peut-être c'est David. Et dans cette verset, il dit, en train de parler de Dieu, « Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. » La première chose à noter quand on parle de ça, et dans nos vies, on est en train de perdre notre force, chacun de nous. Depuis notre naissance, à cause de la chute, à cause de l'ADN, nous sommes en train de mourir depuis la naissance. Les cellules commencent à mourir. Donc, la mort commence en nous. Et donc, à cause de nos vies et bien sûr l'environnement, à cause de la pollution, à cause de peut-être le régime, la nourriture, d'être nourri, à cause de le stress de la vie, santé, à cause de le stress de la vie, on est en train de devenir de plus en plus faible. Donc la vie chrétienne commence avec notre naissance de nouveau et on commence à marcher avec lui. C'est une illustration que j'utilise très souvent. C'est la sanctification progressive. On marche et en train de marcher, on va arriver de notre sanctification ultime. La sanctification ultime est à le moment que je meurs. Le moment que je meurs ou pour la génération de l'enlèvement, le moment que l'Église, les croyants vivants, est enlevée. Glorifie, nos corps glorifient. Mais entre la nouvelle naissance, le moment de conversion et régénération, avec un esprit, un nouvel esprit, un nouveau cœur en nous, on commence de plus en plus d'être faible. Ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler en nous, en fait, qu'on est de plus en plus affaibli. Parce que le Seigneur cherche de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on est fort, on est fort en nous. Parce que l'homme naturel, quelle est la motivation, quelle est la pensée? Je dois être plus fort. Combien de fois que nous avons entendu de quelqu'un qui a passé par une épreuve difficile dans sa vie, qui souffre? Oui, mais la souffrance m'amène à la force, je suis plus fort. J'ai entendu ça. Je crois que c'est Nietzsche qui a parlé, cet philosophe allemand, si je ne me trompe pas. L'expression souvent attachée à lui, si je n'oublie pas, si je peux rappeler, c'est en fait que je vais être plus fort par la souffrance. Je ne trouve pas la citation exacte. That does not kill me makes me stronger. Ce qui ne m'a tué pas, ce qui me rend plus fort, c'est complètement opposé de la pensée de Dieu. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, parle de ses pensées et au-delà de nos pensées, ses voix au-delà de nos voix. Et donc, ça veut dire qu'il y a une différence énorme entre nous et lui. Et on pense, le moment que nous sommes sauvés, on pense que je peux faire grand chose pour le Seigneur. Et je pense que le plus fort que je suis, le plus que je peux aider le Seigneur. C'est complètement opposé des pensées de Dieu. Parce qu'en fait, ce qu'il cherche est qu'on commence à être de plus en plus faible en lui. Le processus dans nos vies de sanctification est un processus de devenir plus faible en nous-mêmes. Nous avons en Ésaïe chapitre 38, le roi Ézéchias, entre versets 1 et 5. Ézéchias est en train de mourir. Dans ce cas, c'était probablement le châtiment jusqu'au mort. C'est la dernière discipline en Hébreux chapitre 13 qui va amener à la mort. Et le Seigneur dit, prépare ta maison, prépare-toi ta vie, tu vas mourir. Et Ézéchias a demandé, aide-moi Seigneur, je ne veux pas mourir, je veux vivre. Il a donné 15 ans plus. Mais la chose que l'homme naturel ne peut jamais comprendre, et c'est la chose que nous, peut-être, on a besoin de comprendre, et que la vie ne consiste pas d'avoir une longue durée. La vie avec Dieu sur la terre est quelle est la qualité de ma vie? Qu'est-ce que je peux profiter? Qu'est-ce que je peux vivre avec le Seigneur s'il donne seulement 5 ans, pas 15 ans? S'il dit, tu vas vivre 5 ans plus, est-ce qu'on peut dire, en 5 ans, j'ai vécu ma vie plus entièrement avec lui, plus satisfiant, plus rempli, plus épanoui que si je vis 50 ans ou 15 ans avec une vie qui est médiocre? Parce que le Seigneur ne va pas donner une longue durée de la vie, un long terme dans la vie. Il veut qu'on utilise le temps que nous avons avec qualité. En Psaume 90, verset 12, enseigne-moi afin que je peux comprendre, avoir la sagesse pour ces jours. Peut-être je vais pas assez de... Je vais lire le verset devant mes yeux. Sur mes yeux. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est Moïse qui a écrit ça. Aide-nous d'avoir la sagesse de racheter le temps en Colossiens chapitre 4, verset 5. Ephésiens chapitre 5, est-ce que c'est verset? J'oublie exactement le verset. De racheter le temps, d'avoir une qualité dans nos vies. Et donc, pour nous, ce n'est pas de chercher d'avoir une longue vie, c'est d'avoir une vie épanouie, une vie avec Dieu. Et donc, de retourner de ça, est-ce que je suis fautif? Est-ce que ma perspective est faute de penser? Seigneur, donne plus de temps sur la terre. Il a dit, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de vivre avec qualité. Et en plus, lié avec ce premier verset que nous avons cité, nous avons besoin d'accepter la sanctification de Dieu qui amène une faiblesse. En fait, il est en train de nous briser. Il brise notre force. Et on va parler un peu plus de pourquoi il fait ça, mais il faut accepter. Dans cette vie, on a des souffrances, croyants ou non-croyants. Ce qui fait confiance en Dieu, ce qui ne fait pas confiance en Christ. La souffrance est évidente. S'il y a une grâce logistique dans cette vie pour ceux qui vivent sur la terre, le soleil brille sur les justes et les injustes. C'est une grâce pour tous. Et les souffrances pour nous tous, certains plus que les autres, mais on doit accepter nos vies être remplies avec les problèmes et des souffrances. Ce n'est pas peut-être des bonnes nouvelles, mais partie de la vie sur la terre, un monde chuté, vraiment un monde qui a des conséquences de la chute, en Genèse chapitre 3, on va vivre des souffrances. Et la question est, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La question est, comment on va vivre ça? Quelle manière? Quelle est mon attitude? Donc, le travail de Dieu, ensemble, sont deux, on a déjà dit, et de briser ma vie, afin que je vais être plus en plus faible. Et nous avons un très bon exemple de ça avec le fameux épisode en Genèse chapitre 32 avec Jacob, le supplanteur, le arnaqueur à la suprême excellence, qui était fort en lui-même, qui était brisé par Dieu, afin qu'il soit plus faible. Donc, il est confronté avec son frère dans le moment de sa faiblesse, pas dans le moment de sa force en lui-même. Il accepte que c'est Dieu qui doit être son aide. Et donc, il faut accepter quelque chose de plus sur ce premier point. Est-ce que c'est... Non, je me trompe. On est jeune maintenant, mais en Psaume 37, verset 25, dans un moment, on va être plus vieux. Donc, on est vieux, mais on était jeune. Donc, la vie passe. Donc, il y a une certaine, qu'est-ce qu'on dit, détérioration de force. Donc, c'est normal. Et dans ça, Dieu peut nous utiliser, peut utiliser cette perte de force pour sa gloire, en fait. Je révèle un peu plus, un peu trop rapidement. En deuxième partie, deuxième point. Jean chapitre 3, verset 30. Jean 3, 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il doit grandir. Moi, je diminue. Ça veut dire... Il est plus important, moi, je diminue dans mon importance. Moins important, lui, plus important. Donc, deuxième point, Christ va grandir dans ma vie jusqu'au bout que je suis plus petit et il est tellement grand. Et ce process continue pour toute la vie. Donc, c'est le but de Dieu qui prend toute la place. Si c'est une maison... Et ma vie, et mon corps, et mon âme est représentée par une maison. Il veut occuper toutes les salles, toutes les pièces. Et il va avoir l'autorité dans toutes les pièces. Ça veut dire que c'est lui qui dit « jette ça ». Ça veut dire lui qui dit « je pense qu'il faut acheter ça, il faut faire ça, il faut peindre la maison. Il faut faire ça. » Donc, il a le droit et l'autorité dans ma vie. Et je t'accepte que le moment que je dis « Seigneur, entre dans ma vie », ce processus va continuer jusqu'au bout. Et si je résiste, je suis en train d'avoir un combat contre lui. Donc, la souffrance inutile si je résiste Dieu. Donc, il faut accepter d'aller dans la bonne direction avec lui afin que le but de Dieu, lui-même glorifié en moi, est accompli. Il est la faiblesse. Donc, il prend plus de place, je prends moins de place. Avant, c'était en Éphésiens chapitre 2, versets 2 et 3, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On était dans un monde en train d'entrer dans une compétition. Est-ce qu'on, pour un exemple, peut dire... Quand quelqu'un amène un nouvel iPhone, ou il y a un certain mode avec les chaussures, et donc tout le monde a acheté les mêmes chaussures. On a vu sur ETS une émission, et il parle de, on peut dire, c'est comme un... c'était à la mode... c'est pas les crocs. Et tout le monde est en train d'apporter ces crocs. Et voilà, tout le monde, tu vois, ils sont en train de montrer ça. Et tout le monde entre dans la même direction, le même chemin, dans la même pensée. On n'est pas dans ce même bateau avec eux. On est sorti de ça. Mais en Éphésiens chapitre 2, verset 2, toi parle de cette pression, cette proposition du monde, cette initiation d'acheter les mêmes choses parce que c'est cool, acheter ça afin qu'on ait tous les mêmes choses, de conformer en Romains chapitre 12, verset 1, de conformer, pardon, verset 2, et pas d'être transformé. Donc, en acceptant qu'on est en train de marcher avec lui, on est automatiquement pas dans la conformité du monde, on ne va pas être comme tout le monde, et d'essayer de faire ça et de résister l'œuvre de Dieu. On est en train d'empêcher. Donc Dieu, bien sûr, va briser nos vies. Peut-être on va acheter une nouvelle voiture parce que tout le monde a la même voiture. Qu'est-ce qui peut passer? Voiture écrasée, peut-être, par exemple, ou quelqu'un... qui, voilà, je ne sais pas quoi, mais c'est possible que le Seigneur va essayer de faire tout ce afin que je puisse accepter son brisement dans ma vie. Et je n'ai pas besoin d'acheter une voiture comme ça ou d'avoir des crocs comme ça ou des autres choses. Non, j'accepte le travail de Dieu dans mon cœur, dans la même direction avec lui. Troisième point. L'affaiblissement. D'être affaibli par le Seigneur est une forme de protection. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Pourquoi? 12, verset 7, c'était le passage que nous avons établi le message. Donc, ce passage. En bref, Paul est en train de dire, écoute, j'ai une écharpe dans la chair parce que le Seigneur est en train de me protéger contre l'orgueil. Pourquoi? Parce que s'il a reçu toutes ces révélations merveilleuses qui sont uniques, cachées avant la fondation du monde, et maintenant Paul a reçu des révélations, c'est comme il peut avoir un subject d'orgueil. Il peut dire, regarde-moi. Voilà, j'ai reçu toutes ces révélations. Le tête commence à gonfler. Son cœur aussi. Uzza, roi en Juda, pendant le temps d'Ésaïe, il était rempli avec orgueil au fin de sa vie. Mais il était un roi juste. Mais le problème, l'orgueil entre, parce que c'est le même avec le diable, c'est le même avec nous si nous ne sommes pas protégés. Et donc, acceptons que le brisement de Dieu est une forme de protection, de mettre des murs et des barrières dans nos vies, qu'on n'est jamais confronté avec cet orgueil. Juste une parenthèse. On est en train de vivre une vie. Peut-être on ne va jamais être riche dans le sens du monde. On est riche en Christ. On est riche dans nos amitiés dans le corps de Christ. Mais on peut voir les gens qui sont riches, qui peuvent profiter de beaucoup de choses. Riches matériellement. Quel est le problème? Pas besoin de Dieu. Pas besoin parce qu'ils sont tous en eux-mêmes. Ils peuvent voyager, avoir des vacances comme ils veulent. Ils peuvent acheter des choses comme ils veulent. Et les problèmes viennent aussi de les gens qui cherchent de profiter de cette richesse. Donc, des amis, faux des amis qui viennent dire, « Oh, je suis un ami de toi. Est-ce que tu peux passer un peu de l'argent aussi ?» Voir qu'un homme riche ou une femme riche, une personne riche, va peut-être souffrir, en fait. Il faut accepter qu'on est protégé contre ça. Peut-être on ne va jamais être exposé de certaines choses que les autres vivent parce que le Seigneur nous aime. Il a dit, écoute, pour ta vie, je vais te protéger contre quelque chose. Je mets les bornes dans ta vie. Tu ne vas jamais expérimenter ça. On va dire, mais il faut que je toujours choisisse ça. Je n'ai pas beaucoup de l'argent, donc je dois être sélectif dans les choses que j'ai achetées. Et le Seigneur dit, oui, c'est très bien. Parce que si tu n'as pas beaucoup de possibilités, tu vas faire confiance en moi. On marche par la foi et pas par le vœu. Donc, il faut savoir protection pour Paul et protection pour nous. Les bornes sont là pour nous. Un enfant est protégé par les bornes, par les limites de l'amour, par ses parents. Et quand le enfant sort de ses limites, danger peut-être. Et donc, c'est une forme de protection par un Dieu qui nous aime. Et donc, ce n'était pas une malédiction. Et des fois, on peut poser la question, pourquoi que Paul doit souffrir de ça? Et le Seigneur peut dire, parce que je suis en train de protéger sa vie. Ça marche sur la terre, et en plus de ça, ma vie n'est pas le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde, mais en même temps, j'ai un impact énorme, une influence dans le monde. Et donc, quelqu'un qui vit une vie et qui peut-être entre dans cette forme d'orgueil va infecter les autres. Donc, quelqu'un qui tombe, un chrétien avec une telle célébrité, un exemple, doit faire attention parce que sa vie est là afin que les autres soient influencés et inspirés. Donc, on n'est pas seul dans notre foi, on touche les autres, croyants et non-croyants. Et donc, la protection de Dieu est là pour honorer le témoignage. Il faut savoir ça. C'est un acte d'amour par Dieu. Quatrième point. La grâce de Dieu suffit. C'est assez pour nos vies. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Nous avons déjà lu cette verset. c'est suffisant pour nos vies d'accepter dans la faiblesse, dans la difficulté, que la grâce de Dieu est là. Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette écharde enlevée, comme Paul, qui a demandé trois fois? Ou est-ce qu'on peut accepter que dans ce moment, avec la grâce de Dieu, j'expérimente une telle présence de Dieu que je ne peux jamais expérimenter si ce n'était pas le cas d'avoir un écharde dans la première fois? Donc, en fait, quelqu'un peut dire, Seigneur, c'était pas agréable, c'était pas une expérience agréable, mais j'ai compris quelque chose de toi et j'ai expérimenté et marché par la foi. Parce que dans cette difficulté, tu étais avec moi. Toi, gars hébreu, toi, homme hébreu, en Daniel chapitre 3, dans le fournaise. C'était une épreuve, mais ils ont expérimenté la présence de Dieu comme jamais. Pour Paul, c'est certain qu'il a une telle expérience de la présence de Dieu. Et lui, il dit en Philippiens chapitre 3, verset 10, « Afin que je connaisse Christ, ça c'est la clé de ma vie. Je veux connaître plus de lui. Moi de moi, plus de lui. » Je vais diminuer, il va grandir. Donc, c'est dans la souffrance, dans l'identification avec lui, dans cette faiblesse, je vais grandir en lui, pas grandir dans ma chair. En fait, quelque chose de plus. Dans cette souffrance, avec la grâce donnée, la transformation continue, il n'est pas en train de péché. Parce que s'il est en train de souffrir et il est en train d'être plus faible, il a deux choix. Tourner avec amertume contre Dieu ou tourner vers Dieu et de rester plus avec lui. Et de dire, ok, je suis plus occupé avec toi, Seigneur, et pas avec ma propre pensée, ni les habitudes et les convoitises, les formes de convoitises dans ma vie, que je ne suis pas enchaîné par le diable dans un piège, je suis plus engagé. Et dans ce cas, c'est vrai, un chrétien qui est occupé avec le Seigneur, ça, c'est très bien. Quelqu'un qui a beaucoup de temps libre, c'est un danger. Quelqu'un qui peut vivre et avoir des réunions, avoir des moments d'être ensemble, bien sûr, on doit avoir des moments privés avec le Seigneur. Mais cette marche avec lui, d'être pas seul, trop avec moi-même, ça c'est un défi pour certains. De rompre le temps avec lui, d'avoir des défis, d'avoir des contacts. Mais sa grâce se fait. Je vais apprécier lui plus, ça c'est un autre aspect. Je vais noter, je n'ai pas noté, mais je pense à ça maintenant. La familiarité tue l'onction. La familiarité va tuer l'onction de Dieu. S'il y a quelque chose dans une église, c'est quand on va avoir la telle familiarité, c'est comme nous avons un ballon et on prend une épine, quelque chose, bouf, bang. Donc, toute cette préparation est cassée dans un instant. Pourquoi que je dis ça? D'avoir cette vie de marcher avec Dieu et d'être conscient que je suis en train d'être affaibli et brisé par le Seigneur est une façon que je ne vais jamais être familier parce que j'ai une dépendance de plus en plus en lui. Et donc, si je suis fort en moi-même et je n'accepte pas la souffrance, je n'accepte pas ces épreuves, je n'accepte pas le fait dans la vie que je suis en train d'affaiblir, et j'essaie d'être plus intelligent, plus fort, plus en moi-même. Je ne vais jamais expérimenter cette grâce. Je vais être le récipient de la discipline de Dieu parce qu'il doit lutter contre moi, en fait. Et je vais être familier, en fait. Et donc, de perdre ça et de dire, OK, Seigneur, je suis plus concentré sur lui, plus dépendant de lui, parce qu'il va m'amener dans les situations de plus en plus que je ne sens pas à l'aise. Parce que de marcher par la foi, je dois être poussé dans ma zone de confort. Et donc, ça veut dire que je ne peux pas contrôler ma propre vie. Je ne peux pas exiger les choses exactement que je veux. Quand je commence à être brisé par le Seigneur, j'accepte ça et il m'amène à une humilité. Donc, je parlais de point numéro 4, beaucoup plus que je peux dire. La présence de Dieu est plus précieuse pour moi. Psaume 84, verset 3, « Je soupire et crie pour la présence de le Dieu vivant. » C'est le psalmiste qui dit ça. Je crie parce que j'ai une sécheresse dans mon âme et j'ai besoin de toi. » Et quelqu'un qui est en train d'être brisé est en train de dire, « J'ai besoin de toi, Seigneur, absolument. Tu es plus précieux que jamais. J'ai apprécié ta valeur. Je ne suis pas intéressé avec la familiarité. » Prochain point. Nous sommes faibles, mais nous sommes forts. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 10. En fait, c'est la je ne suis pas en train d'accrocher à ma propre force. En Ésaïe chapitre 40, verset 30, le jeûne commence à arriver jusqu'au bout, mais tombe avec la fatigue. Donc, il y a une limite de la force naturel. Mais quelqu'un qui est fortifié par la force du Seigneur, par la puissance, en fait, en Éphésiens chapitre 3, verset 16, fortifié puissamment par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, et c'est parle de dunamos, c'est la force miraculeuse. C'est quelque chose qui n'est pas de limite, parce que la force vient de lui. C'est pourquoi que nous avons des témoignages des chrétiens qui vivent des choses complètement dehors de la possibilité naturelle, parce qu'ils sont en train d'être vivifiés. En Romains chapitre 8, le corps vivifié par la puissance dunamis qui a vivifié Christ, ressuscité Christ, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Pourquoi que c'est possible? Pour de voir les exemples des hommes et des femmes de Dieu qui courent. Pourquoi que David peut dire, par toi je peux sauter un mur, par toi je peux courir contre une foule, une troupe. Et on n'est pas d'évidence qu'il a couru contre une troupe, mais c'est peut-être parce que la troupe est démonique, c'est des démons. Mais lui, il a une victoire, il parle des autres choses, mais cette sens est que sa force était en Dieu. Pour lui, de vivre les choses qu'il a vécues en exil pour plus de 15 ans, si je ne trompe pas, combattre avec Goliath, souffrance, perdre sa femme, perdre contact avec sa famille, chassé par en exil par Saul, il faut être un homme connecté avec le Seigneur. Il faut avoir cette force. Ce n'est pas naturel de faire ça. Et donc, il était vivifié et renouvelé. Donc, on est un accès, en parenthèse, de la force superpuissante. Et ce monde, il est rien en comparaison. La sagesse de parler comme Étienne devant le Sanhédrin, confronté par ceux qui cherchent de tuer cet homme. Et la paix dans son cœur de dire, voilà, ça c'est ce que Dieu dit. Et de donner une leçon de l'histoire pour Israël et dire, c'est pourquoi que vous avez résisté Dieu. C'est pourquoi que Paul peut tourner à avoir ces opportunités de parler avec les gens sur la atteinte en Actes chapitre 18, quand il a dit, amène Silas et Timothée avec le rapidité, le plus vite possible, parce que je suis seul dans cette ville. Mais c'est lui, seul dans la même ville, qui était amené de prêcher et il a prêché Christ devant tous les philosophes. c'était une ville possédée avec idolâtrie. Et un homme, un seul homme a le courage, grâce à le Seigneur et cette force qui était en lui, brisé, un homme brisé avec des problèmes des yeux. Un problème, je pense, il ne peut pas voir bien. Donc, c'est une maladie des yeux. Et donc, il parle de cette chose, mais il a cette maladie, mais la force de Dieu était au-delà de tout ce qu'il peut dire. Voilà, ma force, j'étais frappé, j'étais dans le naufrage, j'ai expérimenté ça. Oui, faiblesse, mais la force de Dieu a brillé, la lumière de Dieu. Brisement dans le coin et le prochain, et peut-être que je vais essayer de finir avec ça. Un esprit brisé et un esprit humilié, c'est une attitude de cœur. Psaume 51, verset 19 dans le second, 17 dans le derby. Psaume 51, verset... voilà, je suis en train de... Oui. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Donc un cœur brisé, un âme, un esprit brisé. Wow, le brisement, il a accepté le brisement. Christ était brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, verset 3. Dans le hébreu, brisé aussi parle d'être écrasé. C'est le même mot. Écrasé pour nos iniquités. Et le brisé, mais pas cassé. Cassé implique quelque chose de complètement différent. Détruit. Non, c'est pas détruit, c'est brisé. Ça veut dire intact. C'était toujours là, mais plus faible. Et ça, c'était lui. Et de terminer cette pensée, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 4, verset 6. Verset 6, Dieu a brillé. La lumière brillera du sein des ténèbres. Donc, il veut que la lumière de Dieu brille dans les ténèbres, pour percer les ténèbres, pour révéler Christ. Verset 7, nous portons ces trésors dans les vases de terre. C'est Dieu, on a pour dans nos vases. Et nos corps cachent ces trésors. Donc nous sommes ordinaires, mais dedans, en nous, il est quelque chose de tellement précieux. Donc nous sommes pressés, verset 8, de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et c'est ça. Que dans le brisement, si je peux juste vite utiliser cette flasque, cet réceptacle. Le vase alabastre était cassé afin que l'huile et parfum puissent être répandus sur les pieds et sur la tête de Jésus-Christ. Nous, on est en train d'être brisés afin que, ce n'est pas exactement la même image, mais imagine. La meilleure image est Gédéon et ses 300 hommes avec un récipient avec des bougies dedans. Donc il est une flasque, il est quelque chose avec une lumière. Et l'image de Gédéon avec les hommes est d'approcher l'ennemi qui était beaucoup plus une multitude et eux, 300 hommes. Et d'avoir une trompette et d'avoir cette... Voilà. Et de casser dans un moment afin que la lumière puisse sortir et briller dans les ténèbres. Et c'était une tactique pour tromper l'ennemi de penser qu'il y a beaucoup plus d'hommes, soldats dans une armée. Et donc, ça amène une panique parce qu'ils ont avec la trompette, ils le sont avec la trompette, donc c'est l'impression que c'est une armée beaucoup plus large. Cette tactique était finalement amène à la victoire pour Israël. Mais la chose que je voudrais dire est de casser et de révéler la lumière. Et c'est la même image. Le brisement en nous va briller Jésus-Christ. Le plus que nous sommes brisés, le plus il est dit possibilité pour Christ de briller en nous. Donc, ce n'est pas nous qui vivons, mais lui qui vit en nous. Et ce n'est pas notre force, mais sa force. Et finalement, ça amène avec une humilité et un brisement aux gens qui peuvent dire, « Wow, je ne sais pas comment c'est possible, mais il y a quelque chose de tellement puissant. » Parce qu'en fait, on ne cherche pas de donner la réponse aux gens, on amène la présence de Dieu. Et la présence de Dieu change tout. Une église qui peut manifester la présence de Dieu avec un onction particulier, une église peut toucher une multitude de gens et changer le destin de gens. Et donc, finalement, acceptons que dans le brisement ordonné par Dieu, on va briller plus pour lui parce que nous sommes la vraie chose, nous sommes authentiques. Et on va révéler Christ, on va dégager ce parfum de Christ partout dans le monde. Et en train de faire ça, on va connaître Christ de plus en plus. Donc, moins de moi, plus de lui. Moins de la ancienne nature, plus de la nature de Dieu. Et donc, ça, c'est notre destin, ça, c'est notre mission, chacun de nous. Acceptons le brisement de Dieu afin qu'il est glorifié et on est épanoui de recevoir sa grâce dans notre faiblesse. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Merci. Wow. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce message. Ce n'est pas toujours facile à prêcher, d'accepter un message qui parle de nous de plus en plus faible. Mais on voit, c'est ultimement, finalement, c'est la gloire de Dieu. Et finalement, c'est pour notre bien aussi et pour le salut d'une multitude de gens. Merci, Seigneur. Merci de bénir notre soirée. Prépare-nous pour l'éternité. Prépare-nous pour le retour de Christ, Seigneur. Et merci pour une église vivante, avec la parole ouverte, prêchée sans cesse, tout le plein conseil de Dieu, Seigneur, en grâce et en vérité et en esprit. Merci, Seigneur. Amen.